Francine Barthe de Loisy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes géographe, maître de conférence à l'université d'Amiens, et vous vous intéressez à la façon dont les hommes habitent l'espace, en se fabriquant un style propre, en se réappropriant les lieux, et parfois aussi en les transgressant. Vous avez publié en 2003 chez Bréal une géographie de la nudité, ouvrage qui porte sur les lieux de la nudité et plus largement sur les relations qu'une société entretient avec le corps et l'espace dans lequel il se déploie. Vous venez de diriger chez Bréal, dans la collection D'autre part, un ouvrage collectif intitulé Le pique-nique ou L'éloge d'un bonheur ordinaire. Nous allons donc profiter de ce dimanche de juillet pour aborder, une fois n'est pas coutume dans les émissions de l'Union rationaliste, un sujet léger et riant, celui du pique-nique. Les géographes et les historiens se sont en effet emparés de cet objet de recherche pittoresque, champêtre, qui célèbre apparemment les vacances, le partage et le bonheur de vivre, à la fois dans la perspective d'une recherche sur les vacances et le temps libre, les loisirs, mais aussi dans le cadre de ce que certains chercheurs en sciences sociales, spécialistes de la question des pratiques alimentaires, ont appelé du terme technique de restauration hors foyer, RHF, restaurant, fast-food, cantine scolaire, restauration des hôpitaux, etc., comme des anthropologues qui, à la façon de Michel de Certeau ou Pierre Sansot, travaillent sur l'ordinaire. Alors, la première question que je voulais vous poser, Francine Barthe, c'est une question prosaïque. Qu'est-ce qu'un pique-nique? Et en quoi se distingue-t-il de pratiques proches de restauration hors de chez soi, comme le célèbre casse-croûte, qui semble populaire et ayant aussi, par rapport au pique-nique, rapport au travail, le déjeuner sur l'herbe, qui est un terme plus 19e-iste et qui, depuis Édouard Manet, apparaît comme sulfureux, la garden party, la cagnotte, etc. Qu'est-ce que le pique-nique aurait de spécifique?
Pour qu'il y ait pique-nique, les ingrédients nécessaires au pique-nique sont les suivants. Il faut être à l'extérieur. C'est la première chose. Donc on retrouve le hors de chez soi. Oui. On doit être plusieurs. On ne peut pas pique-niquer tout seul.
C'est la convivialité d'abord.
On est au moins deux.
Oui.
Le pique-nique suppose un partage, une certaine hospitalité des lieux dont on va s'emparer. Le pique-nique se prévoit. Il y a une intentionnalité au pique-nique. Mmh. On décide de pique-niquer pour la simple et bonne raison qu'on va prévoir des aliments qui sont portionnables, des aliments qu'on peut transporter. Nous sommes dans une pratique nomade du manger dehors. Alors, évidemment, ça se distingue de... on va avoir des qualificatifs différents, ça va même prendre des noms différents. Mm-hmm. La garden party est plus chic, plus installée, elle suppose... du personnel, elle suppose des plats préparés en cuisine et servis à l'extérieur, mais on va avoir un système d'aller-retour entre le dehors et le dedans qui n'est pas forcément présent pour le pique-nique.
Voire même qui est exclu du pique-nique.
Alors, nous reviendrons peut-être sur les street parties des pays anglo-saxons qui font aujourd'hui
Florès
à Paris, enfin en France, mm-hmm. en général, où là on retrouve ce système de espace domestique, de relations proches entre l'espace domestique et l'espace public.
Mm-hmm.
Alors on pourrait aussi apparenter le pique-nique au repas tiré du sac du randonneur.
Bien sûr.
On a toute une panoplie de pratiques nomades du manger dehors qui peuvent prendre des noms différents suivant les situations précises.
Alors, d'abord, historiquement, le pique-nique a été le fait du loisir et non pas justement du casse-croûte qui semble lié au travail.
Alors c'est un assemblage assez subtil des deux, en fait. Le casse-croûte du monde rural, mm-hmm. est totalement liée à une nécessité alimentaire. On arrête le rythme du travail des champs pour se restaurer. Donc on mange dehors. Dans le pique-nique, on a une dimension plus festive, oui, plus ludique et plus, je dirais, gratuite. Mm-hmm. On est dans une forme d'exception, ce qui le rapproche d'ailleurs d'une catégorie festive. Nous sommes dans le temps libre, les loisirs.
C'est ça qui le distingue du rapport au casse-compte, casser une graine, etc., et du rapport à la garden party qui est organisée, chic.
Oui, alors ouais. le chic n'est pas rédhibitoire pour le pique-nique, c'est-à-dire qu'on
il
peut avoir
des pique-niques chics.
Il y a des pique-niques très très chics et on songe évidemment là au pique-nique
de la gentry,
justement. De la gentry, au pique-nique des champs de course à Epsom. On songe également au... Enfin, il y a des images comme ça, parce que nous avons beaucoup travaillé sur les photographies, oui, anciennes, oui, les peintures. Dans l'ouvrage, on a un chercheur en histoire de l'art qui a fait un travail...
iconographique, hein, sur
voilà, il a vraiment fait une anthologie de la peinture à travers le pique-nique. Et on retrouve...
plus particulièrement... Du déjeuner sur l'herbe.
Hein. Du déjeuner sur l'herbe, à partir du 17e jusqu'à aujourd'hui.
Alors là, qui caractérise au fond la classe de loisirs, l'aristocratie, etc.
Mais le nous... loisir oisif, oui, voilà, de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie. On a ces deux ancrages en fait dans le pique-nique. Voilà. On a à la fois une pratique qui renvoie à une façon de manger simple, qui est une nécessité, et en même temps ce mélange subtil avec le plaisir, l'extraordinaire,
les vacances,
les congés payés, etc. Voilà.
Rappelez-nous son étymologie.
Oui.
D'où alors, vient-il?
Donc l'étymologie va confirmer hein, cette espèce double ancrage à la fois populaire, aristocratique. Le mot n'existe pas, n'apparaît pas dans aucun dictionnaire ni dans aucun écrit avant le XVIIe siècle. Mm-hmm. C'est dans les caractères de la Bruyère qu'on trouve pour la première fois le terme déjeuner à pique-nique, qui n'est donc pas employé de la même manière qu'aujourd'hui. Oui. Déjeuner à pique-nique signifie qu'on mange donc hors de chez soi, mais pas nécessairement dehors. Et à mesure qu'on va avancer dans le temps, le hors de chez soi va se transformer en à l'extérieur, donc en plein air. Mais il faudra quasiment deux siècles pour arriver à installer ce mot dans une pratique qui est systématiquement à l'extérieur, qui se fait systématiquement à l'extérieur. Alors ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ce mot, il est composé d'une pique et d'une nique.
Oui.
Donc, et là, c'est extrêmement intéressant parce que la pique indique une manière de manger. Mm-hmm. Et la nique, c'était une petite pièce qui n'avait aucune valeur. Et ça signifie qu'on va manger des bricoles, des choses qui sont sans valeur et qu'on va pouvoir... picorer, donc, bricoler des petites choses qu'on va emporter, puisqu'il y a toujours cette idée de nomadisme, de mobilité, de transporter,
d'alimentation en mouvement. Quoi,
d'alimentation en mouvement, bien qu'il faille se poser quelque part pour pique-niquer. Donc le pique-nique, il est territorialisé d'emblée. On ne peut pas pique-niquer debout.
Vous nous dites, du même coup, en rappelant cette étymologie, qu'il y a nécessairement comme une géographie du pique-nique ou comme une mise en scène du pique-nique où on doit se mettre, au fond, autour des aliments pour pouvoir pique-niquer.
Alors, il y a une autre chose aussi sur laquelle il me semble qu'il est important d'insister. Mm-hmm, mm-hmm. C'est que ce mot va vagabonder. Il est à l'origine français. Mm-hmm. Ensuite, au XVIIIe siècle, les Anglais, avec le tour, et sont quand même les inventeurs du tourisme,
bien sûr,
cette aristocratie anglaise va s'emparer de cette pratique de manger à pique-nique, transformer
le terme
et la pratique en en faisant un délassement oisif, on va dire. Le pique-nique va donc changer d'orthographe et s'écrire pique-nique, P-I-C-N-I-C. Il continue son vagabondage, ce mot, et il va partir partout en Europe. On le retrouve par exemple en Allemagne, où ça s'écrit également pique-nique, mais avec un K. K. Bien. Puis, il revient en France, où les grands, au 19e siècle, les grands peintres vont célébrer ce pique-nique à travers les toiles que tout le monde connaît.
Mais qui ne s'appelleront pas pique-nique, mais déjeuner sur l'herbe.
Pas forcément pique-nique, déjeuner sur l'herbe, déjeuner à la campagne, évidemment. On a en mémoire, enfin, on a des images, c'est Monet, c'est Manet, c'est Pissarro, ce sont tous les grands impressionnistes, qui vont d'ailleurs, du même coup, jouer un rôle extrêmement important sur cette pratique, puisque les gens, en regardant les tableaux, vont copier le tableau et pratiquer le pique-nique comme le tableau. Donc ça joue un rôle, on va dire, pédagogique, ces grandes représentations. Du point de vue des historiens de l'art, il y a un autre intérêt au pique-nique, c'est qu'il a popularisé la peinture. C'est-à-dire que avec le pique-nique, on a profité de ce thème pour revendiquer de nouvelles formes de peinture, pour prendre plus de liberté.
Au fond, peut-être un peu comme à chaque fois, la peinture joue avec le réel et le réel s'enrichit des représentations.
Oui.
Alors, aujourd'hui, il me semble qu'au 20e et 21e siècle, le pique-nique est moins champêtre qu'au 19e siècle, évidemment, qu'il est plus associatif et plus urbain, et que justement, il acquiert des nouvelles formes. Donc, j'aurais voulu que vous nous parliez un peu de l'engouement contemporain pour le pique-nique, de ce pique-nique comme lieu d'ancrage des collectifs, comme rituel protestataire, comme, au fond, nouvelle possibilité d'articuler le public et le privé. Aujourd'hui, n'est-ce pas cela qui se joue autour des pique-niques ?
Il y a deux volets, il y a deux versants dans votre question. Le premier versant, c'est effectivement s'intéresser au pique-nique comme objet de recherche indique. Enfin, on a tout de suite une chose incroyable qui s'opère, c'est que on se rend compte qu'il y a, à peu près 2 millions d'entrées sur Internet.
Oui.
À l'occurrence pique-nique. Donc, il s'agit vraiment d'un phénomène de société important. Enfin, si on s'en tient à ce critère-là.
Oui, il est discutable.
Tout à fait. Mais si on s'en tient à ce critère-là, là, il y a quelque chose qui se passe autour du pique-nique. Et on veut en parler, et il y a des blogs, et on raconte, et on invite, etc. On se rend compte également que, à travers cette toile Internet, des collectifs qui n'ont aucune occasion de se rencontrer, comme ils l'indiquent eux, in the real life, c'est-à-dire, on dirait d'une façon familière,
en vrai et pas virtuellement,
pour de vrai, de discuter, de se rencontrer, de partager quelque chose ensemble. En tous les cas, ont sans doute ressenti la nécessité d'avoir des moments, des temps où ils se retrouvent, mais ils se retrouvent autour de quelque chose qu'ils ont en commun. Alors ça peut être le wifi, ça peut être la musique, ça peut être des associations de parents d'élèves, ça peut être, c'est très très varié, des défenseurs de platane dans le sud-ouest, enfin, j'ai trouvé des cas extrêmement variés. Et on va partager, c'est une sorte de métaphore finalement le pique-nique, on va partager en même temps ce qu'on défend, et en même temps, on va partager ensemble un repas. Donc, chacun amène des choses, etc.
Oui, et ce que vous montrez bien dans l'ouvrage, c'est qu'en effet, le pique-nique, dans la réunion associative, c'est une nouvelle configuration de l'articulation du privé et du public.
Oui.
Donc, au fond, il y a un but politique, et le pique-nique, serait la forme qui précisément convient le mieux à ce partage du privé et du public. Dans sa forme même.
Alors, il y a un partage du privé et du public, mais je crois que ça oblige à repenser les catégorisations habituelles. Ça oblige à repenser à la notion d'espace public. qu'est-ce que ça veut dire? On est extrêmement troublé en ce moment, là, en 2008, par ce qui s'opère sur les espaces publics. Il y a des espaces qui sont ouverts au public, fréquentés par le public. Il y a un public très nombreux. Je pense aux centres commerciaux, par exemple, qui ne sont pas des espaces publics. Et on trouve également des espaces publics, comme les rues, qui sont de plus en plus privatisées. Je pense aux terrasses de café, des choses comme ça. Il y a une espèce de grignotage comme ça, d'empiètement,
redéfinition.
Alors voilà, on est sur des lisières comme ça. Et le pique-nique, c'est on refait comme à la maison quelque chose à l'extérieur, mais à l'extérieur ou dans les espaces qui sont libres. Et espace public et liberté, ça fonctionne très très bien ensemble, là, pour le coup. Donc, effectivement, on a un système de porosité qui s'opère entre espace public, espace privé, pratique domestique, manger ensemble, partager ensemble, etc. Partager ce qu'on mange, jouer, amener les enfants, que sais-je. Et tout ça, on le donne à voir aux autres. C'est extrêmement intéressant de ce point de vue-là.
Francine Barthe de Loisy, merci de nous avoir montré que le pique-nique avait revêtu dans l'histoire bien des formes, que son histoire n'était pas terminée et que nous en verrons de nouvelles. Le numéro de juillet-août des Cahiers Rationalistes comporte un article de Nicole Delattre sur la et les laïcités qui oppose les positions de Catherine Kinsler et de Jean Bobéro. Le numéro 166 de la revue Raison Présente porte ce mois-ci sur la démocratie, une invention permanente. Vous pouvez réécouter les émissions de l'Union Rationaliste sur notre site www.union-rationaliste.org ou nous écrire 14 rue de l'École Polytechnique 75005 Paris. Je remercie Philippe Carminati et Brigitte Mazir qui ont rendu possible cette émission.